Chapitre 47.
Depuis le temps que je te cherchais, dit Lindy d'une voix moqueuse en traversant le palier à pas de loup et en franchissant la porte de droite pour me suivre à travers le bâtiment. J'ai commencé par fuir. Je me suis arrachée à la porte verrouillée pour me ruer dans la pièce d'à côté. Je crois que je suis dans un salon. Je distingue tout juste la forme d'un canapé, une table, des chaises. Peut-être un appartement en rez-de-chaussée tout en longueur. J'essaye d'imaginer un plan pour m'orienter à mesure que je m'enfonce dans l'obscurité. Ces fenêtres aussi doivent être bouchées avec des planches. C'est la seule manière d'expliquer ce noir quasi total. Je passe une deuxième porte qui donne sur un autre couloir sombre. Je m'arrête de l'autre côté, dos au mur. J'ai encore mon tesson de verre à la main. Je le serre contre moi et j'essaye de contrôler ma respiration paniquée avant que le bruit ne me trahisse. Il serait temps de me reprendre, de me ressaisir. Je ne suis plus la petite souris terrifiée de Jacob. Je suis une femme qui a encore des promesses à tenir. J'ai appris ce qui s'était passé le dernier jour avec mon père, dit Lindy. Sa voix vient de derrière moi, de la première pièce, je crois, près du canapé. Une balle en pleine tête. Est-ce qu'il t'a supplié de le faire? Je sais qu'il ne voulait pas retourner en prison s'il se faisait prendre. Je ne réponds pas. J'inspire et j'expire profondément. Je ne suis pas fatiguée. Je n'ai pas faim, pas froid. Je vais bien. J'ai eu peur au début. J'ai pensé que j'allais peut-être être recherchée par la police, alors j'ai disparu un moment. J'ai été au Texas, en Alabama, en Californie. J'ai vu du pays. Je me disais que Jacob aurait trouvé ça bien. Sa voix est plus proche. Inspirez profondément. Expirez profondément. Je peux le faire. Mais tu ne leur as pas parlé de moi, hein, Flora? Tu as gardé pour toi tout ce que nous avions fait ensemble, notre petit secret à nous. Je ferme les yeux et je me mords la lèvre pour étouffer le gémissement qui monte de ma gorge. Elle a raison. Je n'ai rien dit. Jamais dévoilé ce morceau du puzzle. La honte, le sentiment d'horreur, je ne sais pas. Mais tous les survivants ont leurs secrets. Des choses qu'ils ne peuvent pas dire tout haut parce que ça donnerait trop de réalité à ce qui s'est passé. Non seulement aux yeux des autres, mais surtout aux leurs. Samuel se doutait de quelque chose. Pendant nos premières séances, il me balançait des appâts sous le nez, mais je n'ai jamais mordu. Personne n'a envie d'être un monstre. Et a fortiori, personne n'a envie d'en parler après coup. J'ai pensé que j'allais te ficher la paix, continue Lindy. Elle est partie vers la gauche. Au lieu de continuer tout droit, elle a tourné vers la cuisine et rôde autour de la table et des chaises. Mais je ne pouvais pas te voir encore vivante et en pleine forme, alors que Jacob... J'imagine que tu ne peux pas comprendre, mais tu es bien placée pour savoir qu'on était très proches, Jacob et moi. Personne ne m'a connue comme lui, et personne ne l'acceptait comme moi. Il était mon père, et j'étais sa Lindy. C'était un petit nom qu'il m'avait donné la première fois qu'il m'avait vue. Nathalie, c'était le prénom choisi par ma mère. Mais Lindy, j'étais à lui. Et toi, petite salope, tu n'avais aucun droit de me le prendre. Sa voix est si proche, presque à mon oreille. Lindy est juste derrière moi, de l'autre côté du mur. Ne plus respirer. Je retiens l'air. Je le garde dans mes poumons, pris pour ne pas faire de bruit. L'an dernier, j'ai décidé qu'il était temps de passer aux choses sérieuses et je me suis lancée à ta recherche. J'ai fait un saut à la ferme de ta mère. Facile de la retrouver avec Internet. Est-ce qu'elle te l'a dit? Qu'une vieille amie était passée? Mais elle sait tenir sa langue, ta mère. J'ai eu beau essayer, elle n'a pas voulu répondre à la moindre question sur toi. Tout ce que j'ai pu obtenir, c'était que tu vivais à Boston. Alors j'ai décidé de m'y installer aussi. Pourquoi pas? Ça faisait un changement de décor sympa pour une fille du Sud comme moi. J'ai trouvé du boulot. J'ai fait mon trou en continuant à te chercher. Et là, j'ai rencontré Devon, qui ne savait même pas quel genre d'homme il était. Mais moi, je l'ai su. J'ai tout de suite vu clair en lui. Ensuite, ça a été un jeu d'enfant de l'embarquer dans l'aventure. J'ai aménagé la maison. Je l'ai laissé faire de moi la première occupante. Et puis, je l'ai envoyé chercher d'autres camarades de jeu. Parce qu'une fille comme moi a certains appétits. Mais je ne t'apprends rien. Je suis prise de tremblement, une réaction que je déteste. Primaire, viscérale. Mais plus Lindy parle, plus tout ça me revient. Les nuits d'épouvante, les bruits, le goût de la bile. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Je suis de nouveau Molly et je ne vais jamais y arriver. Lui aussi, tu l'as tué, pas vrai? Je suis allée chez Devon samedi matin. Il n'était pas passé après le boulot. Il ne m'avait pas appelé. Je savais qu'il commençait à avoir la bougeotte. Je lui avais dit qu'il fallait qu'il se tienne à carreau après s'être laissé surprendre par une caméra de surveillance. Du travail de débutant. Il fallait qu'on serre la bride, qu'on file droit. Mais c'est le problème avec les chiens dressés. Parfois, ils tirent sur la laisse. Alors je suis allée chez Devon pour voir ce qu'il fabriquait. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Des voitures de police. La maison bouclée. Toi, à l'arrière de la voiture de patrouille, le visage couvert de saleté. Et j'ai su ce que tu m'avais pris. Encore une fois. Tu croyais vraiment que j'allais te laisser t'en tirer comme ça? Une deuxième fois? Que je ne te suivrai pas chez toi? Que je n'attendrai pas sur l'escalier de secours que tes proprios s'en aillent pour descendre crocheter leurs portes et leur piquer le passe-partout? Et quand tout a été tranquille, j'ai ouvert ta porte. Et je suis entrée direct chez toi. Un petit cocktail au chloroforme pour t'envoyer dans les vapes. Vite, une injection de sédatif pour finir de t'assommer et le tour était joué. J'ai remis les clés chez tes proprios et je t'ai descendu en moins de deux à mon taxi. Je suis taxi de nuit, le boulot idéal pour se faire un peu de fric et parcourir la ville pour repérer les bons plans. Et puis personne ne remarque les chauffeurs de taxi. Personne ne s'étonne même d'en voir un chargé une femme à moitié inconsciente et qui ne tient pas sur ses jambes. La pauvre chérie a trop bu. Heureusement qu'un taxi la raccompagne. Et maintenant, tout est exactement comme papa l'aurait voulu. On se retrouve toutes les deux, sauf que cette fois-ci, c'est moi qui tiens le pistolet et toi qui ne partiras jamais. Tu m'appartiens. Tu m'appartiendras toujours, murmure Lindy. Elle s'avance sur le pas de la porte, juste à côté de moi. Pas besoin de lumière pour savoir qu'elle sourit. Finie de réfléchir, de s'organiser, de se préparer. Elle m'a peut-être trouvé la première, mais je savais que ce jour viendrait. Je lui taillade le visage avec mon morceau de verre déchiqueté. Elle pousse un cri. Je repars en courant dans le couloir. Didi prit le volant. À vol d'oiseau, il n'y avait pas loin de la boîte de nuit à South Boston. Elle fila dans des petites rues sinueuses, grilla quantité de feux rouges, vira sur les chapeaux de roue et chassa de l'arrière tout gyrophare allumé. Keynes se cramponna à la poignée spéciale chauffard au-dessus de la portière, mais ne dit rien. Elle retrouva de mémoire le chemin des immeubles en question. Fut un temps, sous le règne de Whitey Bulger, où ce quartier de Boston était le territoire des Irlandais et se caractérisait par ses gangs, son trafic de drogue et sa pauvreté. Mais les années 1990 avaient vu la fin de l'encadrement des loyers. Beaucoup de familles modestes avaient été chassées du secteur, qui s'était embourgeoisé pratiquement du jour au lendemain, en raison de la forte demande de terrains en bord de mer. Mais l'amélioration était passée par une longue étape de démolition qui n'était pas encore arrivée à son terme. Derrière un grillage métallique, au moins une parcelle d'anciens logements collectifs attendait encore de connaître le sort qui lui serait réservé. Didi tomba d'abord sur le grillage. Elle le longea pour trouver un portail et découvrit deux voitures de patrouille déjà garées devant. Lorsqu'elle se rangea, un agent regarda dans sa direction et leva une chaîne devant ses phares pour lui montrer que le cadenas avait disparu. Ils n'étaient pas les premiers à entrer. Didi éteignit ses phares et Keynes et elle descendirent de voiture pour rejoindre les agents. Elle entendit le hurlement de sirène au loin, d'autres unités qui répondaient à son appel. Pas idéal, ça. À l'heure qu'il était, Nathalie Draga était terrée dans ces immeubles avec au moins 2 victimes de kidnapping. Si la police débarquait avec ses gros sabots, elle risquait de prendre peur et eux risquaient de se retrouver avec une prise d'otage, voire pire. Il fallait lui tomber dessus par surprise. Comme lors de l'assaut mené par les brigades d'intervention contre Jacob Ness, qui ne s'était douté de rien jusqu'au moment où la première bombe lacrymogène avait brisé la fenêtre de sa chambre. Didi prit sa radio, passa le message. 30 secondes plus tard, les sirènes se taisaient d'un seul coup et il ne restait que le bruit des moteurs. Voilà qui était mieux. Elle rassembla les 4 agents. L'un d'eux signala avoir vu un taxi abandonné au bout de la rue. À part ça, tout semblait tranquille et il n'avait vu personne entrer. Didi hocha la tête. La résidence déserte était immense. 6 ou 7 grands immeubles de briques, tous avec des fenêtres murées et des façades qui s'effritaient. Dieu savait ce qu'il en était de la solidité structurelle des bâtiments, sans parler de tout ce qu'ils allaient peut-être trouver à l'intérieur. Squatteurs, toxicomanes, rongeurs de toute taille. Il allait falloir être prudent.
On va travailler par équipe de 2. On commence par le périmètre et on progresse vers le milieu. Un quadrillage classique. On cherche de la lumière au bord d'une fenêtre, des traces de pas dans la poussière, des portes ouvertes récemment, des serrures forcées, ce genre de choses. N'y allez pas seul. Une simple reconnaissance. Nous avons au moins 2 personnes séquestrées à l'intérieur et un suspect qui n'a rien à perdre. Il faut d'abord qu'on maîtrise la situation, pas que ça dérape.
Les agents hochèrent la tête, allumèrent des lampes torches et se préparèrent à entrer. Didi retourna à son véhicule avec Keynes. « Vous voulez attendre dans la voiture ?» lui demanda-t-elle à voix basse.
« Non. »«
Vous avez un gilet pare-balles ?»«
J'espérais que vous en auriez un à me prêter. »
Elle réfléchit. « Vous avez une formation de terrain ?»«
Oui. » »«
Parce que... Elle eut du mal à prononcer ces mots. « Je suis en restriction d'aptitude. Je ne porte pas d'armes. Mais je peux tirer. » Enfin, je veux dire que je me suis entraînée. La position classique à 2 mains est encore un peu difficile à cause de mon épaule, mais droit devant, ça va. Vraiment. Il avait compris où elle voulait en venir.
J'ai un pistolet, dit-il. Un 38.
Vous me l'échangeriez contre mon fusil ?
Ça me paraît bien.
Elle ouvrit son coffre, où elle conservait du matériel en cas d'intervention. Notamment 2 gilets pare-balles et un coffre de rangement d'armes.
Si je résume, dit Keynes sur un ton badin tout en s'équipant, une enquêtrice blessée et un psy du FBI.
La meilleure équipe d'intervention qu'on ait jamais vue.
On a intérêt à ne pas se planter parce que l'enquête administrative nous fera regretter de ne pas être morts.
Didi sourit, fit semblant de ne pas voir que ses mains tremblaient. Qu'avait dit Phil, déjà ? Qu'il fallait qu'elle fasse davantage confiance à son équipe ? Eh bien, elle avait communiqué. Et elle n'y allait pas seule. Elle avait des agents à l'avant, un agent fédéral à ses côtés, et des renforts en chemin. Elle apprenait. Elle s'adaptait. Tout de même, en empoignant le 38 de Keynes, une arme qui lui était auparavant si familière, elle revit le visage de Jack. Celui d'Alex, et se promit de rentrer au plus vite les retrouver. Puis elle suivit Keynes dans la résidence à l'abandon.